Et dans cette heure spécialement consacrée aux 10 ans de l'attentat de l'Hypercacher, on va retrouver le témoignage de Monsieur Braham, le frère de Philippe Braham, qui est une des victimes de l'attentat de l'Hypercacher. Il est au micro de Lise Benkemoun.
Monsieur Braham, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de témoigner sur Radio Judaïka. Vous êtes le frère de Philippe Braham, qui est l'une des 4 victimes juives de l'attentat de l'Hypercacher qui a eu lieu il y a 10 ans. Racontez-nous un peu comment vous avez appris malheureusement la triste nouvelle en cette journée du 9 janvier 2015.
Alors, je l'ai su le vendredi soir dans la nuit. Bien qu'on était bien entendu toute la journée du vendredi, on était inquiets, angoissés, et malheureusement, en tout cas pour ma part, j'avais un mauvais, très mauvais pressentiment, puisqu'il y a un de mes frères qui m'a appelé pour me dire, voilà, sauf qu'on n'a pas de nouvelles de Philippe. Valérie, son épouse, essaie de l'appeler, il lui répond pas, c'est pas du tout son habitude. Et il a dit qu'il devait aller à Hypercacher pour acheter des petites bricoles. Donc on était très angoissés, on est rentré dans le Shabbat très angoissés. Quand on est revenu de la synagogue, j'ai essayé un peu de sillonner la rue, dans les rues pour demander des renseignements. Je sais pas si je suis passé, je suis parti même chez mon voisin, un non-juif, et je lui ai demandé est-ce qu'il avait des nouvelles. Il m'a dit ben rentrez, voilà, et j'ai pu assister lorsque les forces de l'ordre de sécurité sont rentrées, et on a vu sur les images les personnes, donc les rescapés, et j'ai pas reconnu mon frère. Donc ça n'a fait que malheureusement accroître mon angoisse. Et comme je vous l'ai dit, j'avais un mauvais pressentiment, mais donc on était mon épouse, mes enfants, on était vraiment très préoccupés. Et jusqu'à qu'on est venu me voir le soir pour me dire, voilà, sachez que ton frère, voilà, il a été identifié parmi les. Donc je l'ai su donc le vendredi soir vers peut-être 22 h.
Oui, c'est difficile. Et donc après, vous êtes parti en Israël pour l'enterrement?
Voilà, donc alors d'abord, on a attendu samedi soir. Samedi soir, on est parti à l'institut. Comment il s'appelle, l'institut pour les personnes comme ça assassinées, j'ai oublié le terme.
Pour faire
L'institut
reconnaître en fait
légal,
les.
voilà, l'institut légal, voilà, de reconnaissance. Et donc, on est parti avec mes frères. Il y avait des choses à remplir, quoi. Et on était accompagné de plusieurs personnes. On était énormément sollicités. Enfin, il y a beaucoup de téléphones qu'on recevait de compassion. Et on a ressenti qu'il y avait un besoin de tous se réunir. Et donc on s'est tous retrouvés dans une grande synagogue. On a annoncé que voilà, il y a un moment de recueillement et Blaina, en très peu de temps, s'est tous réunis. La synagogue est devenue tout de suite remplie. Et des télims qui se sont organisés. Il y a eu quelques prises de parole. Et le lundi matin. Lundi matin, on est parti en Israël avec les autres familles, accompagnés des corps des victimes. Et voilà.
Alors,
On est
votre
parti.
frère, à l'époque, il avait 45 ans quand il est mort dans cet attentat de l'Hypercacher, et il avait 4 enfants qui étaient jeune, donc ça a dû être aussi très difficile pour vous et pour toute la famille, hein, cette mort surprise.
C'est sûr, c'est sûr. Moi, je vais vous dire, c'est surtout sa veuve. D'ailleurs, tout le monde était inquiet comment on allait lui annoncer. Bien qu'elle aussi, elle avait un pressentiment. On a délégué ça à son médecin de famille, qui a eu le courage je le salue d'ailleurs, qui a eu le courage de venir lui parler, de lui annoncer. Donc, c'est sûr que tout le monde a été trop traumatisé. Au plus profond de notre être, quoi.
Bien sûr. Et comment ça s'est passé ensuite, le procès, tout ça, vous avez voulu assister ou vous aviez pas envie
Alors,
de vous replonger là-dedans?
je ne vous cache pas que j'ai pas tenu à assister. On a délégué, on avait un représentant, on avait un avocat qui nous a représentés. J'ai eu à l'époque une interview de la radio juive de Paris, mais je n'ai pas voulu m'y rendre. Alors qu'on avait tout ce qu'il fallait, les badges, etc. J'ai préféré. Il y a un de mes frères qui s'est rendu. Il s'est rendu à une des audiences. Mais je n'ai pas, je n'ai, moi, je n'ai pas souhaité.
Vous avez parlé de cette solidarité que vous avez ressentie. Est-ce qu'au fil des années, elle a continué? Puisque malheureusement pour vous, ben, le deuil ne s'arrête pas. Donc tous les ans, il y a cette piqûre de rappel avec l'anniversaire de sa mort.
Écoutez, ça c'est ce peuple juif qui est extraordinaire. Il s'est montré son soutien. Chaque année, on a eu des marques de soutien, de présence. C'est ce peuple juif extraordinaire. C'est un battant, le peuple juif, c'est un battant. Et on est là, on a des soutiens et on continue et on baisse pas les bras et on s'entraide.
Ben oui, c'est beau. Et là, cette année, pour les 10 ans, est-ce que vous allez aller aux cérémonies? Comment vous vivez cette chose-là 10 ans après? Ça passe vite et en même temps, pas du tout.
Ouais, alors, moi je vous répondrai, je suis peut-être original ou spécial, mais je n'ai pas assisté, je ne suis parti à aucune cérémonie, on va dire, publique. J'ai toujours fait ça autour de la tradition juive, des prières, des recueillements, des réunions familiales. On s'est rendu à plusieurs reprises, bien sûr, au cimetière, mais cette année, je ne vais pas non plus aller à une quelconque cérémonie. J'organiserai à la date juive ce qu'on appelle l'Askara, donc l'office religieux pour célébrer la disparition de ces personnes. Mais c'est ma manière à moi de faire mon deuil et de célébrer, de les honorer.
Bien sûr. Et dans la France d'aujourd'hui, où malheureusement l'antisémitisme a encore empiré depuis 10 ans, comment vous vivez? Est-ce que vous êtes resté avec de la peur? Est-ce que vous êtes là volontairement en vous disant qu'il y a besoin d'avoir des juifs en diaspora? Comment vous êtes par rapport à ça?
Alors, sur le moment, moi, effectivement, je me suis posé la question, est-ce que je devais partir ou pas? Et j'ai réfléchi, j'ai consulté de grandes personnalités rabbiniques. Et il y a un des avis qui m'a dit qu'il fallait que je reste en France, il fallait continuer nos activités communautaires. Et j'ai compris que, bon, un juif, il ne fuit pas ses responsabilités, il assume. Et bien sûr, on a tous une envie et on se prépare pour faire notre alia, mais pour l'instant, non, c'est pas dans mes projets. Ça veut dire, pas à court terme, ça veut dire. Parce que je veux pas, on va dire entre guillemets, on va pas se laisser gâcher une deuxième fois notre vie, ça veut dire. On va pas nous enlever notre vie personnelle, nos projets. Nos conceptions, nos responsabilités, nos responsabilités communautaires. Et donc, non, je ne veux pas partir pour l'instant. Non, je ne pense pas qu'il doit avoir des juifs en diaspora, ce n'est pas ma devise. Mais si un juif en diaspora, il pense qu'il a encore quelque chose à faire et qu'il veut se laisser le temps de préparer sa alia, c'est ma manière de voir les choses.
Valérie, votre belle-sœur, pour finir, elle a raconté qu'elle gardait précieusement la kippa noire que son mari avait dans la poche le jour où il est mort et son portable. Vous, qu'est-ce que vous gardez comme meilleur souvenir de votre frère que vous chérissez?
Écoutez, c'est la photo, sur laquelle, à travers laquelle tout le monde l'a connu. C'est son sourire, parce qu'il était un garçon extraordinaire, jovial, gentil, apprécié. Donc je regarde, voilà, son sourire. On se rappelle avec mes enfants et mes frères, ses petites mimiques, ses petites habitudes qui nous faisaient sourire. C'est ça qu'on veut garder parce que. C'est ça la victoire en vrai. C'est qu'ils n'arriveront pas à nous briser, à nous casser. On l'a dit battant et moi on veut rester avec cette image, on reste avec cette image de lui. Il est tué parce que lui aussi, c'est un vrai battant. Il a connu des épreuves, il avait perdu un enfant très jeune, malade, qui était décédé d'une maladie qui était assez rare. Et il a tout le temps continué dans sa vie, il était un battant et s'en parçut nous-mêmes de nos parents. Donc c'est ça que nous, on conserve de notre frère. Quelqu'un qui, on avance, on continue, on se laisse pas abattre parce que on aura doublement perdu.
Eh ben, c'est une belle leçon. Merci beaucoup, hein, Monsieur Braham, pour votre témoignage émouvant. Que la mémoire de votre frère Philippe Braham soit bénie, décédé lors de l'attentat de l'Hyper-Cacher. Merci à vous et bon courage pour
Amen,
toute cette période.
c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie de votre travail, de faire justement ce travail de diffusion, d'explication. Voilà, il faut que vous en soyez bénis, mais ça t'inquiète.
Merci beaucoup. Chacun sa mission. Bonne
Voilà.
journée à vous et à très bientôt.
À toi.